BFM Bourse, le club de la bourse.
Le club de la bourse, comme tous les soirs, avec deux invités, Sébastien Corchia. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Étienne.
Directeur général, directeur des investissements de Cogefi Gestion. Et puis j'ai le plaisir également d'accueillir Vincent Juvins. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Étienne.
Stratégiste macro global chez JP Morgan Asset Management. On a quasiment une demi-heure pour regarder un petit peu la situation économique, la situation macroéconomique, la situation des marchés. Vincent Juvins, je le disais en préambule, qui sont en pleine forme. Des records historiques pour les grands indices européens. Du côté de Wall Street, les indices ne sont pas en reste non plus puisqu'ils sont quasiment sur des plus hauts. Bon, tout va bien actuellement, malgré de nombreuses incertitudes, le marché est quand même hyper résilient.
Oui, c'est clair. Bon, maintenant, les données macroéconomiques publiées cette semaine étaient plutôt encourageantes. J'en veux pour preuve les ventes au détail en Europe, les exportations chinoises. Ce sont autant d'éléments, évidemment, qui donnent quelque part un petit peu d'allant au marché. Les banques centrales, qui en tout cas en Europe ouvrent clairement la porte, comme la Banque centrale d'Angleterre aujourd'hui, à des baisses de taux dans le courant de l'été, sont autant de facteurs, évidemment, qui sont de nature à rassurer les investisseurs. Aux États-Unis, évidemment, on a eu une croissance plus faible qu'attendue et une inflation, je dirais, qui baisse moins rapidement. Donc c'est vrai que là, les perspectives monétaires sont un petit peu moins favorables aux États-Unis. Et c'est vrai que l'Europe commence un petit peu à se démarquer à ce niveau-là. On le voit encore aujourd'hui dans les chiffres du CAC 40. Maintenant, ne nous trompons pas, au cours des mois à venir, il faudra absolument que les bénéfices soient au rendez-vous. Ils l'ont été trop peu, sans doute, en Europe au premier trimestre, davantage présents aux États-Unis. On a quand même des marchés qui, dans tous les cas, sont à leur prix, voire légèrement au-delà du prix, si je regarde les valorisations exprimées en ratio cours-bénéfice. Il faudra réellement que les bénéfices soient au rendez-vous pour les emmener plus haut, ces marchés. Donc, attention, on est, malgré ce contexte positif qu'on observe encore aujourd'hui, on est dans un contexte où des prises de bénéfices ne sont pas à exclure à un moment ou l'autre, si déception il devait y avoir. Donc, chez JP Morgan Asset Management, c'est vrai qu'on investit, on reste investi sur les marchés d'actions, mais on essaye d'avoir en tout cas un type un peu plus défensif, notamment en privilégiant des stratégies plus dividendes, plus revenus, qui nous permettent soit d'augmenter le rendement qu'on a sur les marchés financiers et la performance qu'on a, soit potentiellement d'amortir des baisses, si baisses il y a, et encore une fois, c'est pas le cas aujourd'hui.
Non, c'est pas le cas aujourd'hui, loin de là, cinquième séance dans le vert. Alors, vous avez énuméré beaucoup de choses, mais quand même, faisons un petit focus sur les banques centrales. Hier, c'était la Banque centrale de Suède qui annonçait baisser ses taux. Aujourd'hui, oui, c'est la Banque d'Angleterre qui ouvre la voie à des baisses de taux. Bon, contrairement aux États-Unis, on en reparlera dans un second temps, mais là, ça y est, l'inflation reflue en Europe. La BCE devrait baisser ses taux cet été, dès le mois de juin. Là, la situation, elle est claire en Europe.
Jusqu'ici, oui. Alors, sur l'inflation, je pense qu'il ne faut pas crier victoire trop vite. Hein. On a quand même passé par, en tout cas, une période relativement particulière à cet égard. Je pense qu'en effet, l'inflation devrait continuer sa trajectoire baissière et devrait ouvrir la porte, évidemment, pour que la BCE puisse baisser les taux dès le mois de juin. Ça reste notre scénario. 3 baisses de taux au niveau de la Banque Centrale Européenne d'ici la fin de l'année. Elle suivrait en cela la Banque de Suède, mais également la Banque Nationale Suisse. Donc, clairement, en Europe, il y a déjà, finalement, un mécanisme qui s'est enclenché vers l'aide des baisses de taux. Et on sait qu'historiquement, c'est bénéfique à la fois pour l'économie, mais également pour les marchés financiers. Et ce, d'autant plus en Europe qu'aux États-Unis, puisque finalement le taux directeur de la Fed, il n'est indicateur que pour les marchés financiers. Les entreprises se financent largement sur les marchés financiers à des coûts qui sont parfois largement inférieurs à ce que peut proposer la Fed. Les conditions de financement sont très favorables aux États-Unis, tandis qu'en Europe, les entreprises se financent encore pour à peu près 70% de leurs besoins de financement auprès du système bancaire. Et là, le taux de refinancement et le taux de dépôt de la BCE, évidemment, a davantage d'impact sur les conditions de financement des ménages, des entreprises. Donc, l'assouplissement à venir sera doublement bénéfique, évidemment. Ça a été plus pénalisant en Europe, mais ce sera évidemment un boost supérieur à ce qu'on peut espérer aux États-Unis.
Sébastien Corchia, Cogefi Gestion. C'est vrai que ces derniers temps, le marché est hyper dépendant à ces baisses de taux. Hein. C'est le thème de l'année, avec des anticipations aux États-Unis qui bougent tout le temps, un consensus qui a du mal à se former. Et puis à chaque fois, l'obligataire qui va, qui vient, et puis le marché action qui évolue au fil du 10 ans américain.
Oui, aux États-Unis, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir un point de vue aussi bien pour les banques centrales que pour les marchés, parce que forcément le cycle est différent et on ne regarde pas forcément la même chose. C'est-à-dire qu'en Europe, les jeux sont assez faits. On sait qu'il va y avoir une baisse des taux. Après, je serais peut-être moins catégorique sur le fait qu'il y en ait d'autres, parce que les suivantes dépendront aussi de ce que fera ou ne fera pas la Banque Centrale Américaine. En tout cas, ça pourrait être plus compliqué d'en faire une deuxième tout seul et encore plus une troisième. Mais aux États-Unis, le sujet qui se pose à la Fed, ils sont assez clairs, c'est moins le sujet de l'inflation, ça l'est quand même, hein. C'est moins le sujet de l'inflation, ça commence à être le sujet de la croissance. Parce qu'on a eu quand même quelques statistiques un peu décevantes, Vincent le rappelait en filigrane, un petit peu décevantes sur la croissance américaine. Je vous rappelle qu'on a eu un ISM des services qui est passé négatif en dessous de 50, en tout cas. Et ça, ça se passe à des moments où, généralement, il y a une dégradation assez forte de l'économie qui arrive. On a des chiffres de l'emploi qui sont bons, mais un peu moins bons. Et je vous rappelle qu'on a un consommateur américain qui consomme beaucoup, trop probablement, à crédit, et qui le fait parce qu'il est très confiant dans son emploi et sa capacité de changer d'emploi et d'avoir des hausses de salaire. Et ça devient de plus en plus dur de changer d'emploi, et les hausses de salaire, ça va se calmer. Donc la Fed, elle a un regard aussi sur la croissance. Il lui faut, je dirais, elle est rentrée dans une deuxième phase, là où les marchés sont restés un peu que sur les chiffres du CPI. Donc les anticipations sont un peu doubles aux États-Unis, alors qu'elles sont plus sur l'inflation, je dirais, en Europe, parce qu'on n'a pas trop de sujets de croissance, au contraire, il faut la relancer.
Ah bah non, là-dessus, c'est vrai que c'est compliqué avec une croissance atone en Europe, alors qu'aux États-Unis, la croissance, elle surprend positivement à chaque fois, même si elle ralentit. On l'a vu au premier trimestre, Vincent Juvins. Mais dans le même temps, les entreprises continuent d'afficher des profits au-delà des attentes aux États-Unis. 85% des sociétés ont dévoilé des résultats supérieurs aux attentes dans le S&P 500, avec notamment, des réductions de coûts qui sont toujours là, puis des entreprises qui sont très internationales.
Oui, alors aux États-Unis, je pense que comme Sébastien l'a justement rappelé, finalement c'est le consommateur qui est, d'un point de vue économique, la clé évidemment de la pérennité de la croissance économique. Si le consommateur va, tout va. Ça, c'est un aspect. Sur les marchés, il y a certainement évidemment un contexte international qui peut être favorable pour certains pans de l'industrie américaine. Je pense notamment à tout ce qui est secteur pétrolier, qui aujourd'hui aux États-Unis, on en parle trop rarement, mais enfin bénéficie de ces prix élevés du pétrole, bénéficie des exportations gazières vers l'Europe notamment. Les États-Unis connaissent un boom de production pétrolière qui est tout à fait inouïe, puisque c'est aujourd'hui le premier producteur de pétrole mondial, et c'est évidemment quelque chose qui à la fois contribue évidemment à la réalisation des bénéfices aux États-Unis, mais également à l'activité économique de manière plus large. Alors Wall Street s'en tire également peut-être pas tellement par son exposition internationale, mais surtout évidemment par le fait qu'elle est relativement plus exposée au secteur technologique, secteur technologique qu'on attendait au tournant en ce début d'année, et qui a dans l'ensemble relativement bien fonctionné et délivré sur des attentes qui étaient élevées en termes de croissance bénéficiaire. Donc c'est un secteur, comme je dis souvent, qui est pricé pour la perfection, mais qui jusqu'ici continue, trimestre après trimestre, à apporter cette perfection sous forme de bénéfices qui sont tout à fait significatifs. Et cerise sur le gâteau, on observe que les groupes technologiques, en plus de réaliser des bénéfices importants, investissent à la fois dans le futur, dans tout ce qui est intelligence artificielle, rachètent leurs actions, ce qui est évidemment bénéfique pour les actionnaires, et commencent aujourd'hui même à octroyer des dividendes, chose évidemment auxquelles on n'était pas habitué. Donc aujourd'hui, c'est vrai que pas mal de valeurs de la tech sont devenues presque des valeurs défensives dans pas mal de portefeuilles, et plus des valeurs de croissance comme on les percevait en tout cas auparavant. Et ça, c'est la réelle force de Wall Street aujourd'hui. C'est réellement ce secteur technologique et de communication services qui continue à soutenir en tout cas la création de bénéfices aux États-Unis.
Et dans 15 jours, Nvidia publiera ses résultats trimestriels. Ça sera bien sûr un rendez-vous majeur. Juste avant, je veux quand même revenir sur un élément que vous avez mentionné. Le consommateur américain. Hier, on était avec Vincent Chéniaud de Generali qui nous disait l'épargne Covid, ça y est, elle a été cramée, elle a été dépensée. Ça vous inquiète, ça, quand même? Parce que c'était quand même un moteur de performance. Enfin, en tout cas, ça rassurait quand même pas mal d'économistes, dans le sens où ça montrait qu'il y en avait encore sous le pied. Là, aujourd'hui, il n'y a plus d'épargne Covid et les taux de carte de crédit sont à 20-25%.
Alors oui, c'est certainement un facteur positif en moins. Maintenant, et comme l'a souligné Sébastien, les Américains continuent à dépenser. Les Américains sont fantastiques à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas sur des choses qu'ils n'ont pas besoin. Donc là maintenant, ils bénéficient finalement, ils ont peut-être plus d'épargne Covid, mais ils ont des cartes de crédit. Alors certes, à des taux prohibitifs, mais on voit que l'utilisation de ces dernières est en hausse. La clé, c'est évidemment le marché de l'emploi. Je dirais, ceci est soutenable, tant que les perspectives en termes d'emploi demeurent favorables. Et c'est vrai qu'on a eu quelque part rebalancing qui s'est opéré en termes de rapport de force entre employés et employeurs, c'est-à-dire qu'il était à l'avantage des employés jusqu'il y a peu. Les employés pouvaient quitter leur emploi, hein, ce phénomène de grande démission, sans trop de soucis, avec l'assurance de retrouver un job derrière. Aujourd'hui, on voit que les créations d'emplois, les ouvertures de postes, ce fameux rapport JOLTS, eh bien, montrent qu'il y a moins d'ouvertures d'emplois, que les Américains sont moins prompts à quitter leur emploi, et on voit derrière, les salaires croissent moins vite. Alors, on n'est pas encore dans un marché du travail qui pose problème pour la consommation, mais enfin, on est quand même dans un marché du travail qui est moins supportif. Donc, tôt ou tard, c'est une variable qu'il faudra évidemment analyser plus longtemps, qui pourrait être un risque. On n'en est pas là. Aujourd'hui, les Américains ont un emploi, ils ont une capacité de s'endetter pour ceux qui n'ont plus d'épargne Covid, et ceux qui en ont encore continueront évidemment à le faire.
Sébastien Corchia. Pas mal de choses intéressantes sur cette épargne Covid, puis ça, sur l'emploi qui tient.
Oui, pas mal de choses. Et en fait, faut regarder un petit peu les bruits blancs. Vincent rappelait effectivement cette capacité qu'ont les Américains à dépenser des sommes pharaoniques pour des choses dont ils n'ont pas forcément tout le temps besoin, mais parfois aussi un peu. Je pense notamment au tourisme. Vous avez aujourd'hui les résultats de Airbnb qui sont pas très bons. Et c'est pas la première fois que dans le monde du tourisme, aux États-Unis notamment, les publications sont décevantes. Et vous savez que s'il y a une chose qu'on peut couper en premier, c'est effectivement cette dépense dite de loisirs. On l'a vu aussi sur des parcs d'attractions, sur des activités proches des casinos, etc. Donc on sent quand même que le consommateur américain est un tout petit peu moins à l'aise qu'il ne l'était il y a quelques mois. On sait aussi que le taux de défaillance sur le paiement des loyers augmente, que le taux de défaillance sur le paiement des dépenses de cartes de crédit, en fait tout ce qui est fait à crédit à court terme, augmente. Tout ça avec des taux qui sont élevés. C'est ça que la Fed regarde quand même. Et le sujet qui n'en est pas un aujourd'hui, mais qui pourrait en être un, il vaut mieux pas, mais qui pourrait en être un pour les marchés, c'est si on avait toujours un peu d'inflation aux États-Unis, ce que l'on voit quand même, ce dernier kilomètre d'inflation, il est difficile à réduire, et qu'on avait un peu brutalement un ralentissement lié aux consommateurs américains et lié finalement au chômage, parce que là, on verrait réapparaître, on l'a vu clignoter 2-3 fois, mais on verrait réapparaître le mot de stagflation. Le mot de stagflation, là, c'est le pire ennemi pour Wall Street, parce que vous ne pouvez pas baisser les taux et vous avez besoin de les baisser, en fait, puisqu'il y a un ralentissement à croissance. On n'y est pas, mais il y a des petits clignotants de ci, de là, qui peuvent se rééteindre, mais qui s'allument. La situation en Europe n'est pas du tout la même, bien naturellement, même si elle n'est pas confortable, mais pas sur la même chose.
Mais c'est des clignotants, c'est du rouge ou c'est du orange ?
Non, ce sont des petits clignotants que vous voyez à travers des publications de résultats. Et encore une fois, si vous avez une dégradation des chiffres de l'emploi, qui sont les chiffres que la Fed va plus regarder que les chiffres de l'inflation du type CPI, naturellement, ça va, comment dire, changer. On revient à votre première interrogation et question. Peut-être les anticipations de taux. N'oubliez pas que si la Chine repart aussi, la Chine, le PPI en Chine, c'est un peu le CPI aux États-Unis. Quand la Chine repart, si elle repart, elle peut réexporter de l'inflation aussi. Donc, la situation est complexe, alors que finalement, les marchés la lisent de manière extrêmement simple et forcément dans la meilleure des façons.
Sébastien Corchia, Cogefi Gestion, Vincent Juvin, JP Morgan Asset Management, vous restez avec nous. On est encore ensemble pendant un quart d'heure dans ce club, mais juste avant, je vous donne la tendance parce que dans un peu moins de 20 minutes, ce sera le fixing à la Bourse de Paris. Et très belle séance qui est en cours pour le CAC 40 qui gagne 0,68%, 8186 points, record pour le DAX à Francfort qui gagne plus d'1%, l'Eurostock 50 de son côté prend 0,3%. Du côté de Wall Street, ça va mieux puisque vous avez un Nasdaq qui gagne désormais 0,2%, le Dow Jones plus 0,5%. Et puis vous parliez il y a un instant de Airbnb qui perd du terrain à Wall Street, bah, ça ne profite pas à Accor qui est de loin la plus forte baisse du CAC 40, moins 2,7% à 40,35€, le tout dans des volumes très faibles. C'est Aude Kersulet qui sera avec nous dans un instant, qui nous confirmera tout cela. Mais c'est vrai qu'en ce pont du mois de mai, les carnets d'ordre sont assez vides. Le club donc avec Sébastien Corchia, directeur général, directeur des investissements de Cogefi Gestion, et Vincent Juvin, stratégiste macro global chez JP Morgan Asset Management. Par rapport aux élections européennes, Vincent Juvin, alors vous êtes installé à Bruxelles, en Belgique, donc vous êtes au cœur de la Commission. C'est vrai que c'est pas vraiment un sujet pour les marchés. C'est vrai que, bon, comme on le disait il y a un instant, ils sont focalisés sur les baisses de taux aux États-Unis. Mais alors, la politique, que ce soit aux États-Unis avec les élections américaines qui sont quand même hyper importantes, et dans une moindre mesure les élections en Europe, pour l'instant, c'est pas un sujet.
C'est vrai, et pourtant, c'est quelque chose qui est éminemment important. Mais je dirais qu'heureusement, en Europe, évidemment, le résultat de ces élections sera dilué dans le Parlement européen, d'une part, et dilué dans le temps, dans un second temps. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'impact immédiat sur notre environnement économique et sur l'environnement de marché du résultat de ces élections, à moins qu'on ait vraiment quelque chose qui soit un scénario tout à fait disruptif. Mais aujourd'hui, très clairement, les sondages nous montrent qu'on a une très forte progression de la droite, voire de l'extrême droite, au détriment des Verts qui payent quelque part la crise énergétique qu'on a pu traverser ces dernières années dans un certain nombre de pays. Donc, grosso modo, c'est vraiment les deux grandes tendances. Mais donc, ça veut dire que pour ce qui fait le soutien de l'Europe aujourd'hui, on voit par exemple les excellents chiffres de croissance de l'Italie aujourd'hui qui sont notamment drivés par la mise en place de ce plan de relance Next Generation EU Fund qui a pour objectif de favoriser la transition énergétique et autres. Ceci va continuer, ceci est budgété jusqu'en 2027, fait partie évidemment d'un cadre plus large qu'est le Green Deal. Donc on va avoir à court terme, peu importe le résultat de cette élection, on va continuer à avancer sur ce genre de programme d'investissement et ça bénéficiera à la croissance. Après 2027, lorsqu'il faudra réaliser un nouveau budget pour l'Union européenne, je ne suis pas sûr que ce budget aura encore, compte tenu en tout cas des directions que pourrait prendre le Parlement européen, sera encore aussi vert et peut-être, et on a parlé dans les sujets précédents, qu'il y aura davantage de capitaux qui seront alloués à des choses comme la défense par exemple, comme la sécurité, et ce sont en tout cas des conséquences probables. Donc pas d'impact immédiat, mais quand même à moyen long terme, ce qui va se passer au mois de juin aura quand même une incidence sur la ligne directrice de l'Union européenne et sur les grands choix de société qui seront faits à terme, notamment sur la transition énergétique. Je pense que c'est un des sujets principaux.
Il y aura quelques minutes. Dans un instant, on parlera bien sûr de votre data room. Mais juste avant, quand même, un mot sur l'élection américaine. Parce que c'est vrai que c'est un feuilleton quand même. Hein, même ce qui se passe avec Donald Trump, hein, qui est régulièrement devant les barreaux de la justice. Là, c'est pareil, en fait. Alors qu'on est quand même sur le marché majeur, sur les États-Unis, avec des éléments très importants dans les relations géopolitiques, sur les plans de relance à venir, etc. Et pour l'instant, ça n'intéresse pas Wall Street.
Non, et je dois dire que, en ce qui nous concerne, c'est pas un sujet dans la gestion quotidienne de nos fonds diversifiés ou même de nos fonds d'actions américaines. Bon, historiquement, le résultat de l'élection a rarement été réellement disruptif pour les marchés ou significatif en termes d'incidence. C'est vrai qu'on a d'Europe, on est un peu face à deux candidats qui sont fondamentalement différents, mais enfin sur les grands enjeux de la prochaine présidence américaine, il y a quand même un certain nombre de similitudes. Je pense que l'un et l'autre sont des tenants de la ligne dure vis-à-vis de Pékin. Ça ne changera pas évidemment. L'un et l'autre vont hériter un déficit budgétaire et un endettement abyssal qu'il faudra corriger au cours des prochaines années. Donc je pense que les marchés se réalisent qu'il y a quand même un certain nombre de points sur les points de convergence entre les deux candidats. In fine, ce qui est important pour les marchés, c'est en tout cas l'état du consommateur américain d'un point de vue économique et la capacité de Wall Street à continuer à se réinventer. Et là, il n'y a aucun des deux candidats qui a émis l'idée de réguler durement le secteur de la technologie américaine. Donc j'ai envie de dire pour Wall Street, tant qu'on laisse un petit peu Wall Street opérer relativement librement, c'est l'essentiel.
Sébastien Corchia, par rapport à ces scrutins majeurs quand même à venir, surtout aux États-Unis.
Aux États-Unis, le marché est finalement où les candidats sont contraints, probablement ils le seront par les marchés demain, c'est-à-dire que en fait, c'est le sujet de la dette, hein. C'est-à-dire que plus personne ne sera en capacité aux États-Unis de promettre quoi que ce soit avec des déficits, avec des chèques qui seront envoyés par la poste parce que pour le coup, les caisses sont vides. Donc de toute façon, je pense que l'un ou l'autre, Vincent le disait, ça change pas grand-chose. Un petit mot sur l'Europe. Si effectivement ces élections n'ont pas de capacité à changer beaucoup, elles peuvent avoir un petit effet sur l'euro. S'il y avait trop de partisans finalement de l'extrême droite et finalement anti-Europe, ce ne serait pas bon pour l'euro. Si l'euro est un peu trop faible, ça empêchera naturellement la BCE de baisser trop ses taux. Encore une fois, il peut y avoir un petit lien entre tout ça.